Sur Radio Ndikiluka, chers amis auditeurs, nous vous invitons maintenant à suivre la grande édition de la mi-journée. Et la grande édition de la mi-journée, c'est avec vous, Rolf Steve Domialo. Bonjour.
Bonjour Verdiane, bonjour à tous. À la une, ouverture ce matin au siège du Parlement de la deuxième session extraordinaire des députés au titre de l'année 2020. Une session débutée sur fond de colère de certains députés. Au sommaire également, ce cri de détresse de la population de Obo dans le Oumbomou. Elle se dit asphyxiée par les éléments de l'UPC qui empêchent tout échange entre Mboké et Obo. Et puis, coronavirus en Centrafrique, la barre des 3100 cas sera atteinte ce jeudi. Jusqu'à ce matin, le pays totalise 3099 cas confirmés selon le département de la santé. Bienvenue, Bello sera avec nous pour la page sport.
La deuxième session extraordinaire de l'Assemblée nationale s'est ouverte ce matin sous fond de colère de certains députés.
Plusieurs députés étaient sortis de la salle en guise de protestation. Ils dénoncent l'inaction du gouvernement et des garants et facilitateurs de l'accord de paix du 6 février face aux agitations des groupes armés à l'intérieur du pays. Ils exigent des mesures fermes. C'est dans ce contexte que les députés vont examiner et adopter les 7 lois déposées sur la table du Parlement. Bernard Dila, premier secrétaire parlementaire, donne plus de détails sur cette session au micro de Igor Deskin-Sinapai.
Cet ordre du jour pour cette session extraordinaire porte sur 7 projets de loi que les députés auront à examiner. D'abord, le projet de loi portant collectif budgétaire 2020. Nous avons déjà voté le budget 2020, mais à mi-chemin, il y a des impératifs qui s'imposent et donc il faut ce collectif budgétaire-là. Nous aurons aussi à nous pencher sur le projet de la loi de ratification du traité de la CAC. Vous savez que nous sommes dans cette sous-région, nous appartenons à cette entité de la CAC. Donc, nous devons ratifier et d'autant plus que cette ratification urge. En ce sens que, je crois, le dernier délai pour les pays qui doivent ratifier ce traité est pour la fin de ce mois de juin. C'est une urgence. Nous avons aussi le projet de loi relatif à la liberté de la communication en République centrafricaine. Nous avons le projet de la loi organique portant composition, organisation et fonctionnement de l'autorité nationale des élections, l'ANE. Et je crois que nous nous approchons des élections. Ce sont des lois extrêmement importante que les députés auront à examiner et à adopter.
C'était Bernard Dila, premier secrétaire de l'Assemblée nationale.
À Obo, dans le Oumbomou, la population se dit asphyxiée par les éléments de l'UPC basés à Mboki après les affrontements qui les ont opposés au FACA le 20 mai dernier à Obo.
Selon les habitants de cette partie de l'extrême sud-est de la RCA, ces hommes armés empêchent la circulation des biens et des personnes entre Mboki et Obo. Précision de notre correspondant Moïse Bakwa.
Depuis leur tentative échouée d'occuper la ville de Obo, les éléments de l'UPC qui ont élu domicile à Mboki, situé à plus de 115 km de Obo, empêchent le ravitaillement de la ville en produits alimentaires et non vivriers. Selon des témoignages, ces hommes armés interdisent à la population de Mboki, poumon économique du Oumbomou, de non seulement sortir de la ville, mais aussi celle de Obo, d'y entrer. Conséquence, les prix des produits de première nécessité et certaines denrées alimentaires grimpent du jour en jour à Obo, à en croire certaines sources locales. Cette situation ne se limite pas seulement à Mboki. Les éléments basés aussi à Bambouti font la même chose. Ils empêchent les habitants de faire le va-et-vient dans les autres communes. La crainte aujourd'hui, c'est que si cette situation perdure, la ville de Obo risque de plonger dans une catastrophe humanitaire sans précédent. La population compte toujours sur le gouvernement du pays pour décanter ce malaise comme il l'a fait en déployant les forces armées centrafricaines dans la ville pour parer à une éventuelle attaque des hommes de Ali Darassa, signataire de l'accord politique pour la paix du 6 février 2019. Il faut le signaler. Ce mercredi, le préfet du Oumbomou, le commandant Jude Ngayoko, a indiqué qu'il est en négociation avec les leaders de ce groupe armé en vue de la libre circulation des personnes dans la région. Obo. Moïse Bakwa, Radio Ndikiluka.
De Obo dans le Oumbomou, mettant le cap sur Bossangwa dans l'Ouam, où les membres du comité de mise en œuvre préfectorale de l'accord de paix sont en formation depuis lundi.
Une formation de 5 jours sur l'analyse du conflit, une initiative de l'autorité préfectorale appuyée par l'ONG Conciliation Ressources. Elle vise à amener les participants à plus d'actions pour la paix et la réconciliation. René Patrice Wanekone, consultant national en charge de suivi de la mise en œuvre de ces accords dans la préfecture de l'Ouam, est au micro de notre correspondant Raphaël Nganari.
Il s'agit de renforcer les capacités des membres du comité de mise en œuvre préfectorale parce que ces membres ont été nommés par décret du mois de février 2019 par le chef de l'État. Il faut que ces membres soient formés pour savoir quel rôle ils doivent assurer dans leur entité respective. Il faut que les membres soient formés sur l'analyse des conflits pour qu'ils sachent un peu la typologie et les phases de développement d'un conflit, qu'ils puissent aussi être capable de lui restituer les termes, le contenu et la lettre de l'accord à leurs membres et également expliquer qu'est-ce que l'accord de paix, l'accord pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine du 6 février.
Chapitre coronavirus de ce journal. Bonne nouvelle pour les formations sanitaires de la préfecture de la Sangambayéré. Elles seront dotées la semaine prochaine des kits de lutte contre le Covid-19.
Une vingtaine de centres de santé de cette préfecture et ceux de la zone frontalière avec le Cameroun et le Congo-Brazzaville sont recensés pour recevoir ces matériels sanitaires. Un don de l'ONG Initiative pour la démocratie et le développement durable I3D. Ces matériels ont été présentés hier à la presse au sein de la dite siège à Pongi. Bienvenue, Bélon.
Ces matériels médicaux et d'hygiène sont estimés à près de 3 tonnes. Il s'agit de cache-nez, gants stérilisés et non stérilisés, savon, liquide antibactérien, compresses, blouses, médicaments et bien d'autres. Les organisations polonaises partenaires de I3D, notamment Redemptoris Missio et l'église catholique Xisa Serani, ont envoyé ce don pour la population de la Sangambayéré. Isabella Siwa, consultante chargée de la mobilisation des ressources à l'ONG I3D et représentante des organisations polonaises.
Nous sommes très contents de cette donne parce que ça va nous aider beaucoup à travailler dans la zone de Sangambayéré où la situation du virus de COVID-19 n'est pas bonne. L'organisation I3D travaille dans les 20 fossats où on va distribuer les dons, aussi dans les 3 zones frontalières.
Pour Isabella Siwa, cette action est d'une importance capitale pour le peuple polonais car chaque ménage a contribué pour la mobilisation de ses produits et d'autres matériels de santé. Elle insiste sur la bonne gestion de ces matériels. Isabella Siwa.
Ces dons sont vraiment quelque chose d'important pour tous les Polonais parce que c'est beaucoup de maisons polonaises donnent quelque chose de sa part. Tous les 10 palettes, ce qu'on voit, c'est vraiment les dons de bon cœur depuis la Pologne et surtout qu'il y a beaucoup de Polonais qui travaillent ici, surtout à l'église catholique. On espère d'avoir l'avantage avec ces dons-là. On espère vraiment que grâce à ça, les gens de Sangambayéré vont beaucoup profiter car il faut vraiment bien garder. Il faut bien voir la situation qui est maintenant, car le virus n'est pas fini. La situation est toujours grave en Afrique, en Europe, en Amérique, partout.
I3D procédera dans les prochains jours à la distribution de ces produits au centre de santé retenu par l'appui des comités villageois d'assainissement. Les personnes démunies et les personnes de troisième âge de ces localités de la Sangambayéré sont également prises en compte dans ce projet.
Les matériels ont été présentés hier au sein du siège de la dite ONG à Bangui.
Et voilà, Rolf, l'association Empire 236 s'active elle aussi dans la lutte contre le Covid-19.
Elle a remis hier des masques au personnel de la mairie de Bangui pour se protéger contre cette maladie. Cette remise fait suite à la décision des autorités du pays exigeant à la population le port obligatoire de masques dans les lieux publics. Ronald Ogier, responsable de cette association, est avec Emmanuel Samboli.
Bon, on a choisi la mairie de Bangui parce que dernièrement, on avait imposé le port des masques obligatoires. Même le président de la République, dans ses dernières déclarations, il avait demandé à tous les centrafricains de faire preuve de citoyenneté, de porter les masques dans les lieux publics. Donc c'est pour cela qu'on n'a jamais de venir offrir ces masques à la mairie de Bangui. On a distribué dans les rues, notamment dans le premier arrondissement, devant le National Hotel, et on est venu distribuer au centre-ville pour finir ici à la mairie. On souhaiterait continuer ce dimanche à l'église cathédrale pour distribuer au moins 150 masques à toutes les personnes qui viendront prier à l'église. Parce qu'aujourd'hui, on impose aussi le port de masques obligatoire à l'église. On a plusieurs activités à faire, mais vu la pandémie du coronavirus, on est actuellement bloqué. On sollicite l'aide des partenaires.
Covid-19, le monde s'apprête à franchir la barre des 10 millions de contaminations avec près de 500 000 décès.
Certains pays ayant contenu la pandémie font face à de nouvelles vagues de contaminations inquiétantes. C'est le cas des États-Unis, l'Allemagne, la Corée du Sud, la Chine ou encore le Portugal.
Et puis Rolf, la pandémie continue sa percée sur le continent africain avec plus de 107 000 cas dans 54 pays.
L'Égypte reste en tête avec 2450 morts, suivi de l'Afrique du Sud, 2205 décès ici en Centrafrique. Le pays recense 3099 cas, 572 guéris et 38 décès selon le dernier bilan du ministère de la Santé.
Le journal se poursuit sur Adjoundé Kiluka Berberati, dans le sud-ouest de la République centrafricaine. Le processus du lancement des activités de la fibre optique est en marche après la pause de la première pierre en octobre 2019.
Le coordonnateur du projet, accompagné d'une équipe technique, s'est rendu le 22 juin dans la ville pour étudier la possibilité du passage souterrain des câbles. Ceci suite aux difficultés liées aux ravins dans certaines parties des préfectures de Sangambaéré et de Mambéry-Kadéï. Après évaluation, François-Xavier Dekoupou rassure que les travaux vont bientôt démarrer avec l'arrivée de certains équipements à Bangui. Il est au micro de notre correspondant René-Pierre Ndoumbé.
C'est une mission de validation de toutes les études techniques qu'on a faites au niveau de la zone du projet. Et ça concerne les sites techniques et ça concerne aussi la base vie et ça concerne aussi le passage, la modalité de passage sur le tracé. Donc c'est ce qu'on a retenu et qu'on a estimé qu'on a finalisé tout le dossier et toute la documentation possible, l'architecture en tant que telle. Mais il faut que se rendre sur le lieu. Il y a trois points critiques sur la voie. C'est au niveau de Karno, au niveau de Nanobo, au niveau de Berberati. Il y a un autre point aussi qui est dans la Sangambaré au niveau de Yamandou. Donc c'est ces points critiques là, nous sommes venus avec les techniciens de l'entreprise Taïan et du bureau de contrôle Taxis pour essayer de vérifier quelle est la possibilité de contournement au niveau de ces points techniques. Nous sommes satisfaits que les équipements qui venaient de Via Brazzaville pour le génie civil sont arrivés au niveau de Bangui et ça c'est au niveau du bar. Le ministre en tant que tel est en train de suivre ce dossier de près pour que d'ici peu de temps avec la collaboration du ministre des Finances à travers la direction générale de la douane on puisse livrer ces équipements. Et une partie qui sera à Bangui et une partie qui sera transférée acheminée sur Berberati. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire.
Actualité internationale en bref, condamné en première instance à 18 mois de prison, puis à 6 mois en appel le 19 mai dernier, le journaliste béninois Ignace Soussou est enfin libre.
Oui, Verdiane, il a quitté la prison civile de Cotonou mercredi. En décembre 2019, Ignace Soussou publie trois tweets sur l'intervention du procureur de la République lors d'un atelier sur la désinformation organisé par l'Agence française du développement des médias du Sud, en abrégé CFI. Les tweets sont jugés dénaturés. Il est donc arrêté le 24 décembre, jugé et condamné pour cyberharcèlement. Bienvenue, Bélou est là pour la page des sports de ce journal. Bienvenue, bonjour.
Bonjour Rolf, bonjour à tous.
Dans la page des sports, le président de la Confédération africaine de football, Ahmad, donnera une conférence de presse le 30 juin prochain.
Une visioconférence beaucoup attendue au sein du milieu footballistique africain, car elle pourra relancer beaucoup de choses et donner également des précisions à certaines inquiétudes des amoureux du ballon rond. L'organisation du CHAN, en passant par les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, pour parler de la Ligue des Champions, y compris plusieurs autres sujets, pourront être abordés par le numéro 1 de la Confédération africaine de football. Bien avant, une réunion du comité exécutif de la CAF se tiendra dans la matinée pour discuter de l'impact de la Covid-19 sur le football africain et d'autres questions connexes.
Bienvenue pendant ce temps au Maroc. Démarrage ce jeudi des séances d'entraînement des clubs de football.
Le championnat professionnel interrompu en mars à cause du coronavirus reprend fin juillet. Une information qui a été confirmée par Othman El Ferda, ministre marocain des sports, devant une commission parlementaire. Il a affirmé que le démarrage des entraînements est prévu dès cette semaine, plus précisément ce jeudi 25 juin. Le bureau fédéral, après une réunion avec les ligues et les clubs, confirme que cette reprise ne concerne que les clubs des premières et deuxièmes divisions.
Le président de la Fédération tchadienne de basketball, Bani Gata Ngoulou, honoré par le prix PADEV.
Il est désigné meilleur manager africain dans le secteur du sport en 2020 par un jury du prix africain de développement PADEV. La cérémonie de remise de prix se déroulera du 11 au 13 octobre prochain à Kigali au Rwanda. Elle était initialement prévue du 21 au 23 juillet. C'est donc une bonne nouvelle pour le basketball basketball tchadien et africain.
Et c'est la fin de ce journal en français. Restez branchés pour la version en langue nationale.